chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons cette série concernant la sérénité du corps, du cœur, de l'âme et de l'esprit. C'est possible. Nous sommes à l'étude numéro 4 et le thème sera « Trouver le repos en Dieu ». La Bible nous promet que nous trouverons le repos en Jésus-Christ et que Dieu nous introduira dans le repos du sabbat. Seul Dieu peut métamorphoser l'inquiétude en paix. Cela correspond aussi à ce que peuvent expérimenter beaucoup de personnes aujourd'hui qui empruntent le chemin spirituel, apprend qu'il se détache du stress. Il le voit alors comme s'il était sur une autre planète. Qui trouve son centre en Dieu apprend que le monde n'a plus de pouvoir sur lui. Il entend le message libérateur de l'évangile de Saint Jean selon lequel nous sommes certes dans ce monde, mais pas de ce monde, selon lequel Christ nous offre la vie éternelle, une vie sur laquelle ce monde n'a pas prise. Nous ne pouvons pas maîtriser et maintenir notre intranquillité, mais si nous croyons que nous sommes ancrés en Dieu et non dans le monde, nous nous soustrayons à elle. Nous pouvons donc l'observer depuis un lieu extérieur au monde, à partir de Dieu avec lequel nous ne faisons plus que un dans la foi. L'évangile de Saint Jean reflète cette expérience du calme au milieu de l'agitation. Dans la première partie, Jésus ne cesse de s'expliquer avec ses adversaires. Tous les problèmes et toute l'agitation du monde l'atteignent de plein fouet. Mais au 3e, au 13e chapitre, eh bien le ton de l'évangile change. Jésus est seul avec ses disciples. Il lave leurs pieds et il leur parle. Les adieux de Jésus sont remplis d'une paix profonde qui vient de l'au-delà. Parce qu'il voit tout à partir de son Père, qu'il rejoindra du reste dans la mort, même sa passion et sa crucifixion perdent leur caractère tragique. Jésus traverse sa passion calme et souverain. Le trouble de la foule ne le touche pas. Ce qui se passe là est d'une toute autre importance. C'est la révélation de Dieu au cœur de notre monde déchiré. Au cœur même de la passion, Jésus fait un avec son Père. Oui, Jésus fait un avec son Père. Cette union l'arrache à l'agitation du monde. Jésus, dans la prière qui précède sa passion, demande cette unité pour ses disciples. Ceux qui croient en lui doivent faire un avec lui comme lui fait un avec le Père, être parfait dans l'unité. Notez Saint Jean chapitre 17, verset 23. Voyez-vous, l'unité, ce mot, est également employé dans la langue des mystères et signifie alors l'initiation au mystère de Dieu. Jésus demande donc que ses disciples soient initiés au mystère de l'unité, au mystère de Dieu. Dieu est le un en soi. Il est un avec son Fils descendu sur terre. Il relie en lui le ciel et la terre. Dieu et l'homme, la lumière et l'obscurité. Ainsi, nous devons aussi rassembler en nous le ciel et la terre, le noyau divin et la chair humaine, l'esprit et la matière, la hauteur et la profondeur. Pour les Grecs, le déchirement constituait la tragédie de l'être humain. Écartelé entre ciel et terre, entre divinité et humanité, entre masculin et féminin, l'homme grec aspirait à l'unité. Il voulait retrouver l'union originelle. À cette aspiration, c'est Jésus qui répond. Quand l'homme est devenu un, comme Jésus avec son Père, il reflète la magnificence de Dieu dans le monde. Faire l'expérience de Dieu, cela signifie donc éprouver sa propre unité. Cette unité est la doxa, la forme par laquelle Dieu s'est manifesté dans le monde. Elle est aussi la condition de la paix véritable. Quand les contradictions ne s'affrontent plus en nous, quand l'animus et l'anima ne font plus que un, alors nous sommes en notre âme profondément tranquille. Dans la Passion, Jésus nous indique une voie pour garder le calme au milieu des turbulences de la vie, au moment même où nous sommes agressés, incompris et blessés. Aucune épreuve ne nous atteint si nous avons réunifié notre nature divine et notre nature humaine. Les blessures, les diffamations, les moqueries ne peuvent aucunement nous arracher à cette union avec Dieu. Les mots que Jésus prononce devant Pilate, elles valent aussi pour nous. Quand Jésus dit « Mon royaume n'est pas de ce monde » Saint Jean chapitre 18, verset 36, dans cet espace où seul Dieu habite et règne, nous sommes invulnérables et souverains. De la paix et de l'union avec Dieu, personne ne peut nous chasser. Dans sa prière, Jésus nous montre comment atteindre la véritable unité. Mon cher, oui, mon cher ami, toi qui écoutes maintenant, eh bien, on peut dire Père, on peut le dire ensemble, Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi. C'est merveilleux, écoutez encore une fois cela. Jésus dit, « Mon Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi puissent être avec moi. » Saint Jean, chapitre 17, verset 24. C'est dans la prière que nous sommes près du Christ. De la prière de Jésus, l'Église d'Orient a fait un moyen pour s'imprégner toujours plus de l'Esprit du Christ. Pour elle, cette prière résume tout l'Évangile. Elle lie l'Esprit au Christ et par le Christ, elle ouvre à l'union avec le Père. En ce qui me concerne, j'ai fait depuis une trentaine d'années de la prière de Jésus une voie de méditation. Elle m'accompagne non seulement lors de ma méditation matinale, mais aussi tout au long de la journée. La prière de Jésus me met toujours et partout en relation avec moi-même. Elle me fait ressentir l'unité avec Dieu au cœur de l'agitation quotidienne. Lorsque, à l'inspiration, je prononce les mots « Seigneur Jésus » et à l'expiration « Toi, Fils de Dieu, aie pitié de moi. » Alors là, je suis où est le Christ. Je ressens alors Christ descendre jusqu'au tréfonds de mon âme, y compris dans les recoins de ma vie. Le Christ habite ainsi toutes les pièces de mon corps et de mon âme. J'éprouve donc une paix profonde. Je suis en accord avec tout ce qui est. Je suis uni au Christ et aux hommes. Je réconcilie les contradictions en moi. Je ne suis plus ballotté d'un côté à l'autre. Je suis tout à fait là, dans l'instant en Dieu, mon Père céleste. Quand nous ne faisons plus que un avec Dieu, quand nous trouvons en Dieu notre source, alors l'agitation qui nous environne ne nous touche plus. Certes, nous la percevons, mais elle n'atteint plus le lieu intérieur habité de Dieu. Plus Dieu emplit notre cœur, et moins l'agitation peut s'y répandre. La rencontre avec Dieu s'accompagne toujours d'une profonde paix intérieure. En Dieu, les turbulences de notre âme s'apaisent, nos contradictions se résolvent. En Dieu est le véritable repos, celui du sabbat qu'il nous a promis. Pour Nicolas de Flux, la paix est toujours en Dieu, car Dieu est la paix, et la paix ne peut pas être détruite alors que la discorde peut l'être. Voyez-vous, tout chemin qui nous rapproche de la communion avec Dieu nous rapproche également de la paix. Pour l'un, ce sera la méditation, pour un autre, la Sainte Cène. Les chemins sont nombreux, nombreux qui peuvent nous conduire à l'union avec Dieu. Ce ne sont pas de simples techniques qui peuvent nous aider à surmonter notre inquiétude. Les chemins qui mènent vraiment à la paix passe par l'expérience de notre propre vérité, par la rencontre personnelle avec Dieu. En fin de compte, c'est le chemin de la prière et de la méditation qui, après un détour par notre propre vérité, nous conduit jusque à Dieu et nous offre en Dieu une part de la paix divine. Chers amis, le temps et l'éternité font un quand l'opposition entre Dieu et l'homme, entre le ciel et la terre, disparaît. Nous entrons alors dans la paix du sabbat divin. Cette paix véritable nous fait toucher à l'éternité. Le huitième jour, celui de la résurrection, le huitième jour est celui où nous participons à la paix éternelle du sabbat divin. Par cette paix éternelle, oui, on peut dire, car cette paix éternelle continue le huitième jour et ne s'arrête pas avec lui, faute de quoi elle ne serait pas éternelle. Pour cette raison, le huitième jour se confond avec le premier, et ainsi la vie originelle ne s'avère pas le passé, mais revêtue du sceau de l'éternité. 8 est le chiffre de l'éternité. Le huitième jour est donc le jour qui ne connaît pas de soir. Par le baptême, nous sommes plongés dans la vie éternelle de Dieu. Le huitième jour est aussi celui où coïncide le temps et l'éternité. Toute son aspiration tend donc à avoir part à l'éternité au cœur du temps. Mais dans ce monde, les jours passent, les uns vont, les autres viennent, aucun ne reste. Même les instants pendant lesquels nous parlons se succèdent les uns les autres. La première syllabe disparaît afin que puisse résonner la seconde. Depuis le moment où nous avons commencé à parler, nous sommes devenus un peu plus vieux, et sans doute suis-je maintenant plus vieux que ce matin. Ainsi, rien ne reste stable, rien ne reste ancré dans le temps. Pour cela, nous devons aimer Dieu, aimer celui par qui les temps sont advenus, afin d'être libérés du temps et ancrés dans l'éternité, oui, là où le temps n'est plus instable. Mes chers amis, temps et éternité, cela coïncide dans l'instant. Voyez-vous, lorsque nous sommes tous à l'instant, eh bien le temps s'arrête. Chacun a déjà ressenti la fascination exercée par exemple, un coucher de soleil. Alors il oublie que le temps passe. Lorsque nous sommes absorbés par un événement, nous oublions le temps et nous ne sommes plus que pur instant, le pur présent. Nous avons alors l'intuition du repos éternel auquel nous participons déjà. Tous les mystiques parlent de ce pur présent dans lequel ils font l'expérience de Dieu. L'homme, dans l'union avec Dieu, dépasse tout temps et participe déjà à l'éternité. Le but est de trouver le lieu où l'esprit persiste dans le repos relié à la chère éternité. Dans le commentaire de l'Épître aux Galates, chapitre 4, verset 4, il est dit « Mais quand vient la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils né d'une femme. » Il écrit « Quand y a-t-il plénitude du temps. C'est quand il n'y a plus de temps. Quand on a, dans le temps, mis son cœur dans l'éternité, quand toutes les choses temporelles sont mortes en nous. Ça, c'est la plénitude du temps. Mes chers amis, cette expérience dans laquelle temps et éternité coïncident, nous pouvons la faire lorsque nous sommes absorbés par la contemplation, par exemple, d'une fleur, d'un paysage ou d'un beau tableau. Quand nous sommes tout entiers regard, il n'y a plus de différence entre celui qui regarde et l'objet regardé. Alors le temps s'arrête. Nous pouvons aussi pressentir une telle paix lorsque nous entendons une longue phrase de Jean-Sébastien Bach ou de Mozart, lorsque nous sommes tout ouïe et que rien, absolument rien, ne peut nous distraire, lorsque nous sommes absorbés par l'écoute. Cela peut nous arriver parfois lorsque nous lisons le Saint Livre, vous savez, The Old Fashioned Book. Alors nous sommes plongés dans notre lecture, quelque chose nous touche tout à coup et nous ne pouvons plus continuer à lire. Le paradoxe vient de ce que la coïncidence entre temps et éternité passe par les sens. L'expérience de l'esprit nous est donnée par la matière, celle de l'infini par l'espace et celle de l'éternité par le temps. Voyez-vous, quand nous sommes tout à notre méditation, nous sommes aussi tout à fait présents et éprouvons la paix absolue. Abandonnés au soleil, nous sentons sa chaleur nous pénétrer. L'agitation de l'esprit cesse. L'esprit se laisse absorber par les sens et parvient au repos. Ainsi nous éprouvons l'unité. L'esprit et les sens ne font que un, au même titre que le temps et l'éternité. Le théologien Johann Baptist Metz a donné la définition la plus courte qui soit de la religion, une interprétation du temps. Le repos sabbatique de Dieu interrompt le travail de l'homme, la prière suspend de façon salutaire le stress quotidien. Nul ne peut vivre toujours et partout dans le calme intérieur. Un conflit nous accapare, quelqu'un nous contrarie, et aussitôt, le mécanisme par lequel nous nous blessons nous-mêmes se met en branle. Nous retournons dans notre esprit les paroles blessantes. Nous nous tourmentons en nous reprochant de n'avoir pas su mieux réagir. Les résolutions que nous avions prises pour garder notre paix intérieure ne nous sont plus d'aucune aide. Et lorsque nous nous mettons à prier devant Dieu, nous suspendons le processus qui nous conduit de la vexation subie à celle que nous nous infligeons nous-mêmes. Or, dans la prière, nous retirons momentanément de tout ce qui nous accapare. Nous l'envisageons à partir de Dieu. Par cette saine distance, nous nous libérons des troubles et des soucis. La prière nous ramène au calme, elle nous ramène au cœur même de l'intranquillité. la prière quotidienne nous garantit que nous ne nous laisserons pas happer par le stress. La prière nous offre des balises pour prendre du recul afin d'avancer à nouveau, oui, de ancrer notre vie totalement en Dieu et avec Dieu. Voyez-vous, cela nous arrache à tout ce que la vie a de fonctionnel et au train-train quotidien également. Le jour de fête, que ce soit le Shabbat ou que ce soit un autre jour, le jour de fête se caractérise par une organisation précise du temps, par la célébration d'un culte, par un repas solennel, par des jeux et de la musique. La fête correspond à une suspension du quotidien, à un surcroît de vie, parce que Dieu lui-même fait irruption dans notre vie. La fête nous relie à l'origine et anticipe en même temps le futur. Nous fêtons le repos du sabbat éternel de Dieu. Ce repos du sabbat n'est pas l'inactivité, il est célébration de notre vie qui devient digne d'être vécue puisqu'elle transforme ou puisqu'elle est transformée et qu'elle est sauvée par Dieu. Parce que nous avons part dans la fête à la réalité de Dieu, elle nous accorde un repos et une récréation autrement plus grande que l'activisme des loisirs. Si nous avons conscience de vivre chaque jour dans la proximité bienfaitrice, c'est-à-dire une proximité qui nous fait du bien, une proximité aimante de Dieu, et d'agir par sa grâce, alors nous sommes dans la main de Dieu, et nous pouvons célébrer notre travail comme étant une fête de la création. Le travail n'est plus une charge, mais devient un plaisir, une fête célébrée avec Dieu. Notre vie quotidienne n'est alors plus dominée uniquement par le stress, mais maintenant elle se trouve dans la paix. La fête, voix de la paix, célèbre toujours l'action de Dieu en nous. Elle consiste donc en une louange à Dieu, dans laquelle le cœur de l'homme trouve la sérénité. Nous cherchons à résoudre nos problèmes spirituellement ou psychologiquement, et nous voudrions surmonter notre peur, nos états dépressifs, mais ce n'est pas par la maîtrise que nous parvenons à la paix. La volonté de maîtriser, de prendre en main, tout cela engendre à son tour la peur de perdre le contrôle. Il ne faut donc pas chercher à maintenir nos peurs et nos dépressions, nos passions et nos émotions, mais nous réconcilier carrément avec tout et en faire, en les dépassant, le support d'une louange à Dieu. Voyez-vous, si nous louons Dieu au cœur même des aléas de notre vie et des conflits non résolus, nous échappons à leur emprise et nous trouvons le calme et la détente. La fête est donc l'impression, plutôt l'expression, de cette détente au sein d'un monde où tant de problèmes sont en attente de solutions. si nous attendions que tous ces problèmes soient résolus, nous ne pourrions jamais célébrer de fête. Nous resterions enfermés dans le cercle vicieux des conflits. La fête est donc une suspension salutaire. Mais nous n'éprouvons la sérénité que procure la fête que si nous laissons Dieu s'introduire dans notre vie en le louant en tant que créateur. Si nous célébrons en toute conscience les fêtes comme des interruptions bénéfiques, alors nous pourrons dire que notre vie est une fête perpétuelle. Comme conclusion à notre étude, mes chers amis, l'homme n'aspire aujourd'hui à rien d'autre qu'à la paix, tant autour de lui que en lui. Il souffre dans cette époque agitée, il souffre du bruit qui l'entoure comme du stress qui le harcèle. Mais il souffre aussi, en dépit de son aspiration profonde au calme, de son incapacité à le trouver véritablement. Les rares instants qu'il s'accorde pour se couper de l'agitation extérieure ne le conduisent pourtant pas au calme, mais le confrontent au bruit de sa vie intérieure, les pensées, les soucis, les angoisses, la culpabilité, la déception d'avoir une vie différente de celle dont il avait rêvé. Aussi fuit-il, il va fuir ces instants de calme finalement désagréables pour se laisser abasourdir à nouveau par le bruit qui parvient de partout. Il s'échappe donc dans l'activité pour éviter d'affronter une vérité qui le dérange. Nous avons donc montré, mes chers amis, qu'il nous faut affronter notre propre vérité si nous voulons accéder à la sérénité. Ce chemin est extrêmement exigeant. Il nous éloigne de nous-mêmes et de nos soucis pour aboutir en Dieu. L'expression selon laquelle le cœur ne trouve le repos que en Dieu n'est pas que une parole pieuse, mais elle correspond au vécu le plus profond. Nous ne pouvons pas, par nos propres moyens, calmer notre cœur intranquille. Nous ne pouvons atténuer nos propres angoisses et notre sentiment de culpabilité. Nous ne pouvons échapper à notre ombre. Il nous faut l'ombrage d'un arbre pour nous reposer sans craindre notre propre ombre. Nous avons donc besoin de Dieu et de Jésus-Christ auprès duquel nous nous sentons à l'abri. Nous avons besoin de son amour grâce auquel nous nous sentons acceptés sans condition puisque nous avons le droit d'être tel que nous sommes avec nos angoisses et avec nos tourments. Devant Dieu, nous pouvons nous montrer tel que nous sommes et ainsi cesser de nous fuir de façon mortifère. Installés à l'ombre de sa croix, nous pouvons accéder à la véritable sérénité, à ce repos auquel nous aspirons tous tellement. Amen. Et chers amis, avant de terminer par la prière, j'ai reçu dans le cœur de vous transmettre quelque chose pour votre édification personnelle et aussi pour vous encourager. Écoutez bien. La vie fait passer les enfants du Seigneur par le creuset. Ils y sont plongés en vue de leur formation. Dans l'épreuve, ils implorent Jésus et il se penche sur eux avec sollicitude jusqu'à ce qu'ils commencent à refléter quelque chose de sa gloire. Il peut alors les façonner toujours mieux à sa ressemblance. Mais il faut que le métal ait d'abord été réellement purifié. À mesure que vous prenez mieux conscience des interventions de Dieu, la vie éternelle vous anime tout entier pour vous sanctifier, pour vous fortifier et pour vous guérir. La vie éternelle est une appréhension immédiate, intuitive de ce qui est éternel. Appréhension immédiate de la présence du Père et de la propre présence de Dieu. Pas seulement la conviction intellectuelle, raisonnée de notre existence, ni même de notre divinité essentielle, mais la certitude intime que nous sommes en tous et dans la mesure. En outre, où vous prenez conscience de sa présence, alors vous placez en cette présence également tous ceux que vous aimez, car en apportant au Seigneur votre service de tous les instants, vous attirez dans le rayonnement de la vie divine par l'effet souverain et mystérieux de l'amour, tous vos bien-aimés. Et chers amis, maintenant, nous allons terminer par la prière. Prions. Seigneur notre Dieu, que heureux est l'homme dont la force est en toi, car tu lui parles de paix et tu remplis son cœur de confiance et de sérénité. Ta délivrance est près de ceux qui te craignent, et tu les exauces lorsque ils réclament ton secours et tes bénédictions. Toi, oui, toi, qui es le Dieu fort, pitoyable et miséricordieux, lent à la colère et abondant en grâce et en vérité, tourne-toi vers nous. Ne retire pas de nous ta bonté. Nous te prions pour tous ceux qui nous sont chers et pour tous ceux qui ont besoin de ton assistance. Seigneur, fais grâce et pardonne à ceux qui s'éloignent de toi et inclinent leur cœur à te chercher. Affermis notre foi, donne-nous une conviction profonde et inaltérable que tout ce que tu fais est juste et sage et que tes voies sont des voies d'amour et de miséricorde, que tes pensées à notre égard sont les pensées d'un Père et d'un Sauveur. Ô Seigneur, donne-nous toujours cette conviction, cette confiance, et que nous puissions te dire du fond de notre cœur en toutes circonstances, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Exauce notre prière, Dieu de bonté, au nom et pour l'amour de Jésus ton Fils, qui seul est notre espérance, qui seul est notre force, notre salut. Et ceci, dans la vie et dans la mort. Amen. Et chers amis, merci de la patience que vous avez à écouter ces études et aussi au désir, certainement. Et sachez simplement que par l'Esprit Saint, même vu mon très grand âge, eh bien, le Seigneur me donne dans l'esprit, dans mon cœur, dans mon âme, de nouveaux sujets. Et je vais commencer demain matin, Dieu voulant, une série phénoménale, magnifique, qui va aider nombreux d'entre vous pour fortifier dans la foi chrétienne. Soyez donc bénis et je vous embrasse tous avec tout mon amour. À demain matin, Dieu voulant, pour la suite, pour une nouvelle série. Au revoir mes très, très chers amis.